partager la réflexion de ce soir. J'aimerais juste clarifier ce qu'est un enseignement. Le Bouddha a toujours dit « Vérifiez, ne croyez rien de ce que je vous partage. » Et un enseignement, il est là pour soutenir la pratique, l'exercice, pour nous permettre d'incarner peu à peu cet équilibre énergétique, cette libération qui fait que nous sommes engagés dans le monde, mais qu'en même temps, nous ne sommes pas de ce monde. Donc, prenez ce qui vous touche, lâchez ce qui n'est pas utile et soyez votre propre maître. La réflexion que j'aimerais vous partager ce soir est liée à la responsabilité. Notre responsabilité dans une retraite, comme dans nos vies, c'est un questionnement important parce que souvent nous nous compliquons la vie avec ces histoires de bien et de mal. Est-ce que je médite bien? Est-ce que je suis suffisante? Est-ce que je suis adéquate? Est-ce que la faute ou le ressenti d'être fautif, ça n'est pas du tout la responsabilité, c'est presque le contraire. Et énergétiquement, nous pouvons sentir comment c'est lorsque nous sommes liés à cette inquiétude. Est-ce que je manque à quelque chose? Est-ce que la faute où je me sens un peu défaillante, où je suis toujours un peu sur le qui-vive pour justement ne pas l'être. Et quand vraiment je me sens fautive parce que l'autre m'a critiquée, ou parce que l'autre m'a agressée, ou parce que simplement intérieurement il y a quelque chose qui émerge, un contact qui crée cette espèce de mal-être, ben, juste maintenant, c'est important d'ouvrir. C'est comment le corps est vaguement gelé, choqué, mal à l'aise, fermé. Il y a ce sentiment d'être défaillant, faible. Et alors l'autre devient, lorsque l'autre est fautif, ça devient comme un ennemi. Le partage n'est pas possible. C'est lui ou moi. Que ce soit lui qui a fait mal ou moi qui ai fait mal, au fond, peu importe, au niveau énergétique, c'est douloureux. Et par contre, la responsabilité, lorsque je me sens responsable par rapport à peut-être une même difficulté, je me sens responsable. Le corps est posé, il y a une sorte d'ouverture, quelque chose qui est ferme, mais en même temps doux, clair. Et il y a quelque chose fait que je suis ouverte au partage. Il y a une vision qui n'est pas aveuglée par ce tremblement lié au bien et au mal. Il y a une absence de peur et de réactivité, quelque chose qui s'est vide. Et le Bouddha a parlé de la responsabilité ou de l'engagement ou de l'aspiration. Il a employé un autre mot, chanda. C'est un désir, mais non pas ce désir du moi qui veut réussir, qui veut être vu, reconnu, qui veut gagner, qui veut tout ce qui est plaisir et bon karma. C'est un moi qui se pose dans un engagement. C'est un désir, Chanda, c'est un désir pour la libération, pour l'équilibre. Alors que l'autre mot, Tanha, c'est la cause de la souffrance. Deuxième vérité. Je veux. Cet aveuglement lié à mon désir étriqué par rapport au moi, ça n'est pas une erreur, c'est vraiment le cœur du travail. Lorsque nous sommes libérés de tanha, de cette soif de bon karma et de cette peur de mauvais karma, nous sommes éveillés, c'est l'éveil lui-même. C'est intéressant de voir pourquoi est-ce que nous vivons, nous sommes dans un tel gouffre de confusion par rapport au corona. C'est que la société tout entière est totalement aveuglée. Et elle est aveuglée par ce désir très individualiste, de santé. C'est la quête perpétuelle depuis la nuit des temps, la quête d'éternité. Je ne veux pas mourir. Mais lorsque je veux la santé, est-ce que je suis en santé? C'est une sacrée question. C'est que la santé, lorsque nous sommes emprisonnés dans la peur de la perdre. C'est un aveuglement qui crée la confusion. Nous ne pouvons pas avoir une vision claire lorsque nous construisons sur la peur. La peur de perdre. Donc nous pouvons questionner et reconnaître juste maintenant comment être libre, responsable de l'instant, responsable de notre vie. Et la pleine conscience est un outil exceptionnel pour pouvoir nous libérer de cette projection perpétuelle et pour pouvoir être dans la connaissance, reconnaître. Est-ce que juste maintenant je suis dans la libération ou est-ce que je n'y suis pas? Et c'est pas tellement important d'y être ou de ne pas y être. Mais c'est tellement important de voir. Parce que cette vue claire de l'expérience ici et maintenant, c'est la clé. Plus je suis aveuglée par l'expérience, par l'objet de conscience, par le vécu, qui change, qui est des fois merveille, des fois horreur, moins je vois clair. Et plus je commence à avoir expérimenté à l'intérieur de moi-même, dans l'assise, mais aussi dans ma vie, ce que cette impermanence à Nietzsche qui fait que je me rends compte de ce qu'est le réel. Le réel, c'est que ça change. Il n'y a pas de vie sans mort, il n'y a pas de joie sans peine, ça émerge et ça passe. Et ça n'est pas ce que je suis. Moi, je suis ce qui contemple. Je suis ce qui peut questionner, c'est comment. Évidemment, ce que je vois, c'est que moi, il aime beaucoup mieux quand ça va bien. Moi, il aime beaucoup mieux quand le corps est posé, détendu, quand la joie, que c'est calme. Puis le moi, il panique vite quand tout ça nous est enlevé. Mais c'est OK. Ok, et peu à peu, nous nous rendons compte, nous vérifions à quel point nous créons notre propre souffrance par cette soif de garder ou d'avoir peur de perdre. Ce moi en priorité qui crée le sentiment de faute, de culpabilité ou de critique. Et en fait, la responsabilité, elle est très liée à cette vision claire. Au fond, mourir n'est pas un problème. Mais ma responsabilité, c'est comment est-ce que je meurs? De même, vivre n'est pas une nécessité. C'est le réel du maintenant, nous sommes vivants, juste maintenant on est vivant. C'est pas une nécessité, mais c'est vrai, c'est comme ça. Mais comment est-ce que je vis? C'est une sacrée question, c'est une belle question. Nous aimerions tellement pouvoir toujours être heureux. Et ça n'est pas le programme. Ou plutôt, ça l'est, mais pas comme nous le croyons. Je peux être toujours heureuse si je me lie à cette qualité d'accueil de l'expérience. Et il y a beaucoup plus de profonde satisfaction à apprendre comment s'ouvrir à ce qu'on nomme entre guillemets mauvais karma, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Il y a beaucoup plus de grandeur, de beauté, à pouvoir dire oui à ce choc de la vie qui vient à nous parfois. Qu'à toujours espérer être content. C'est pénible. Et bien sûr, c'est difficile de se souvenir que l'impermanence existe parce que tout autour de nous essaye de nous le faire oublier. La société n'est pas sur cette, dans cette sagesse-là. Maintenant, tout va mal, c'est la faute au corona, il faut l'abattre. Victoire, on va être tous vaccinés, enfin, on sera dehors du corona.
20. Il y a le suivant. Ce sera pire. Puisqu'on n'a encore pas compris.
Et de comprendre que en nous c'est pareil. Il y a ce même aveuglement de le voir, de l'explorer. C'est tout le chemin. Voir comment il y a un moment de calme, d'ancrage, de bonne concentration, de joie, et que quelque chose émerge. Ah, ça y est, j'y suis. Je. Il y a cette espèce de pseudo-confiance. Et puis, il y a un moment de déprime, de douleur physique, de non-intérêt, d'ennui, ou de doute. Et oh, mais j'y suis pas. Qu'est-ce que j'ai fait faux? Il y a cette pseudo-peur qui n'est pas plus à moi que la confiance de tout à l'heure. Nous rajoutons la deuxième flèche. Le Bouddha a parlé de la première flèche qui est celle de cette impermanence où notre harmonie nous est parfois enlevée. C'est cette deuxième flèche qui fait que le mental vient rajouter. C'est ma faute, c'est ta faute, c'est la faute au corona, c'est la faute à qui? C'est juste la vie, le réel de la vie. Et le seul fautif, s'il y en a un, c'est notre aveuglement qui fait que nous fermons, nous résistons, nous contrôlons, nous exigeons. Nous cherchons à changer à tout prix, plutôt que d'ouvrir. La non-acceptation de la première vérité crée simplement une double souffrance. Je vous lis ce que le Bouddha dit de cette première vérité. La naissance est souffrance, ou plutôt il y a souffrance dans la naissance, dans la vieillesse, dans la maladie et la mort. Le chagrin et les lamentations, la peine et le désespoir sont souffrance. Être lié à ce ou ceux que nous n'aimons pas est souffrance. Être séparé de ceux et ceux que nous aimons est souffrance. Ne pas obtenir ce que nous voulons est souffrance. En bref, les cinq agrégats de la saisie sont souffrance. Nous saisissons. Au lieu de voir que quelque chose de douloureux a émergé, qu'il a son temps de vie et que ça passe, nous le saisissons. Et nous faisons durer ce qui n'aurait qu'un temps de vie relativement court. Et dans ces cinq agrégats de la saisie, nous pouvons vérifier en nous-mêmes comment, et c'est important de le faire dans le réel, quand il y a quelque chose, comment un contact engendre un ressenti et une perception, ou une représentation. Par exemple, si je viens m'asseoir et qu'il y a le doute qui émerge. Le doute crée un ressenti douloureux et une histoire autour. Souvent, il y a de la comparaison, une séparation entre quelque chose et quelque chose d'autre, ou quelqu'un et quelqu'un d'autre. Et nous pouvons sentir qu'il y a une saisie. le moi a envie de s'intéresser à ça, même si c'est douloureux. Il a envie de s'intéresser à ça. Donc le contact est saisi, le ressenti est saisi, les représentations ou les perceptions sont saisies. Et en général, nous ne le voyons pas. Ça se passe d'une manière inconsciente. Et par là-dessus, nous allons construire. La pensée va se projeter dans le futur. Ça n'est plus une explication ou un souvenir de ce qu'il y a, de ce qui est. Mais c'est une construction, des projections, des imaginaires, des stratégies. Et la conscience est totalement perdue dans ces fabrications qui partent d'un simple contact. Et qui crée un monde. Et l'aveuglement fait que nous croyons que ce monde est vrai. C'est moi qui suis en train de construire. Je peux construire mon bonheur, hein. Souvent nous construisons notre bonheur, mais je peux tout autant construire mon malheur. Et tant que ce phénomène reste dans l'inconscience, nous en sommes prisonniers. Et nous restons à la surface des choses, dans l'apparence des choses, dans un pseudo-monde, un pseudo-corona, un pseudo-moi. Je crois à moi. Et ça, ça n'est pas prendre notre responsabilité. C'est rester dans cette identification, qu'elle soit positive ou négative, que ce soit de la culpabilité ou de la critique ou de l'attachement à ce qui est entre guillemets bien. C'est le même problème. Je crois que je fais bien ou je crois que je fais faux. J'y crois. Alors avec le vipassana, lorsque je vois les choses telles qu'elles sont, tranquillement, la fin de l'identification peut nous libérer, nous soulager, nous rendre, nous donner la joie, la vraie joie. Ce plaisir d'être. Je vous lis une petite parole. Le moi n'est peut-être pas quelque chose, mais il n'est pas rien non plus. Il est simplement impossible à saisir, introuvable. Je suis ce que je suis, non à cause d'un moi essentiel caché au plus profond de mon être, mais à cause d'une matrice de conditions à nul autre pareil, qui ne se rappelle, répétera jamais à l'identique et qui m'a formée. Nous pouvons voir ce conditionnement. Nous pouvons voir comment nous sommes formés juste maintenant de tout ce passé qui fait que je peux vous parler, que je peux vous voir, que nous sommes là. Et ce qui n'est pas conditionné, c'est une seule chose, c'est la conscience. La conscience maintenant. Après, je peux imaginer que cette conscience reste ou qu'elle ne reste pas. Mais l'énergie ici et maintenant, cette puissance d'être, elle ne peut être que maintenant. Et je prends ma responsabilité lorsque je me lis à cette qualité-là, parce qu'elle me protège. C'est une protection immense contre l'hostilité de la vie, pour ne pas succomber à la peur ou à la violence. Et lorsque nous parlons de ce cœur de l'être, de cette libération, c'est un potentiel qui ne peut s'exprimer que maintenant. Notre responsabilité, elle est de travailler à l'intérieur de nous-mêmes, d'accepter d'avoir cette bonne volonté de laisser émerger l'ombre quand elle émerge. Non pas de la titiller pour qu'elle vienne, elle vient assez. Je fais un tout aussi bon travail si je suis dans une retraite où tout est calme, ça arrive. Mais quelquefois, c'est autre chose qui vient. Ce sont ce que Annick de Souzenel appelle des animaux intérieurs. C'est cette ombre. Et tout est fait, au fond, lorsque nous nous mettons en silence, pour que le qui suis-je émerge, qu'il y ait une conscientisation de ces attachements qui, en général, sont camouflé par notre système défensif. Donc nous avons à nous réjouir lorsque ça émerge, parce que en étant mis en lumière, ils peuvent peu à peu lâcher. Il n'y a plus ce double mouvement, la peur d'avoir peur, l'aversion pour la colère. Et alors notre vie est plus simple parce que l'interrelationnel devient, au fond, l'autre. D'abord, je travaille avec l'autre que je suis, et puis après, l'autre est une chance dans son inaccompli. Tout comme quand l'inaccompli en moi émerge, je peux l'employer pour grandir. C'est Ezra Baïda qui dit: les relations mettent souvent en lumière les aspects les plus douloureux et déséquilibrés de notre vie. De ce fait, elles sont un puissant maître. Pourtant, qui veut vraiment un tel maître? En vérité, ce que nous voulons des relations, c'est ce que nous voulons. La beauté des relations comme pratique spirituelle, c'est que nous sommes tellement déçus de ne pas obtenir ce que nous voulons que finalement, nous sommes motivés à nous éveiller. Et tous ces efforts que nous faisons pour renoncer à aller dans la facilité, pour venir plus en profondeur, nous ouvrent à l'autre. Lorsque nous lâchons nos peurs, nos soucis d'être assez, d'être aimé, d'être reconnu, quelque chose s'ouvre à ce que les Tibétains appellent la bodhicitta. Je fais pour l'autre. c'est l'autre en priorité. Parce qu'il y a une libération de l'attachement au moi. Et c'est... ça donne un sens extraordinaire à notre vie, d'apprendre à être disponible pour autrui, d'apprendre à alléger le corps et l'esprit de cet intérêt pour moi. C'est ce qu'on appelle la compassion. Nous avons appris à être sensibles à toute cette masse de souffrance. Et alors, nous en sommes libres. Elle coule sur nous comme, je peux qui disait, comme une goutte d'eau sur une fleur de lotus. C'est pas qu'elle ne soit pas là, mais il n'y a plus d'emprise. Il n'y a plus la deuxième flèche. Notre responsabilité au niveau interrelationnel, c'est de venir à l'intérieur. C'est le travail sur soi-même. Parce que nous ne pouvons pas demander à l'autre de nous libérer. On aimerait bien, hein? Mais ça ne marche pas. Donc tout ce que je fais à l'intérieur de moi-même, je le fais pour l'autre. Nous ne pouvons pas être égoïstes dans une retraite. Parce que automatiquement, si je le sais, c'est encore plus motivant. Mais automatiquement, ce que je fais en moi-même a des répercussions sur autrui. Et lorsque nous avons le sentiment d'être totalement impuissant face à la souffrance, c'est juste que nous ne savons pas à quel point elle est notre maître. Nous n'avons pas vraiment compris combien nous devons la remercier. Je vous lis encore une parole d'Ezra Baïda. La pratique spirituelle en lien avec les relations, c'est de travailler uniquement sur soi-même et de nous libérer de l'emprise contraignante et pénible de notre propre malheur. Ce n'est pas à l'autre de nous libérer de notre ombre. Notre mal-être est notre propre responsabilité. En nous ouvrant à notre inaccompli, en voyant nos jugements, nos opinions, nos croyances, nos exigences, et en restant présents à la peur d'où elles émergent toutes, nous libérons les autres de devoir nous porter. Alors, quand ils n'éprouvent plus le besoin de nous protéger, ils ont plus envie de faire leur propre travail à l'intérieur. Ainsi, la joie dans la relation devient possible. S'aider l'un l'autre à grandir. Parce que l'autre a d'abord été reconnu à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est ça, se dégager. Je me dégage pour être moi-même objet de conscience. J'observe ce qui suis-je avec bonté et délicatesse. Et d'une certaine manière, ce travail, c'est de l'amour. Non pas de l'amour romantique, mais du lien. Nous nous relions à notre vécu d'une manière dans le psychocorporel. Je ressens dans le corps, qu'est-ce que ça fait d'être dans le doute ou dans la... joie. Et lorsque je fais ce travail psychocorporel, automatiquement, il y a moins d'identification. Il y a ces deux naissances que nous pouvons expérimenter maintenant. C'est cette naissance au monde, nous sommes vivants, nous sommes nés, nous avons un nom, nous habitons un endroit, nous avons une histoire, chacun est unique dans sa manière de se situer. Et cette deuxième naissance, c'est celle qui donne priorité à la conscience, c'est notre capacité à observer le qui suis-je et le monde et les autres avec compassion, engagement, et sagesse. C'est-à-dire être équilibré entre la responsabilité de me donner à la vie et la responsabilité de ne pas m'y laisser engloutir. J'y suis sans y être. Je vais finir avec encore une parole d'Ezra Baïda qui dit « La pratique spirituelle, c'est d'entrer de plus en plus profondément dans l'amour. Pas l'amour personnel, mais l'amour qui est la nature de notre être. Sans faire face à nos peurs, nous n'entrerons jamais dans le royaume de l'amour. » Et on peut prendre un moment.